Gloire au Seigneur. Voilà, on va poursuivre sur ce thème. Donc, comme vous le savez, nous parlons sur l'Esprit de Dieu et nous terminons aujourd'hui sur ce grand sujet que nous avons vu. Nous avons abordé pas mal de thèmes et puis dans la dernière ligne droite, si je puis dire, nous terminons par les dernières actions de l'Esprit qu'on n'a pas pu classer forcément dans différents thèmes, mais qui sont intéressantes et importantes à situer. Donc, quelques actions que nous avons vues la semaine dernière. Parmi les différentes actions, il y en avait cinq, on a vu. L'Esprit de Dieu, il habite en nous. Il nous fait réaliser notre filiation spirituelle. C'est ce verset qui dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous a scellés, on a expliqué tout ce qu'était la signification du sceau. Il nous vivifie et puis il nous fortifie. Et nous poursuivons donc sur ces actions. Il nous en reste encore quelques-unes. La sixième donc que je voulais partager avec vous, c'est le Saint-Esprit communique la joie. Alors on va lire un premier texte dans l'évangile de Luc au chapitre 21, au chapitre 10 pardon, et au verset 21. Luc chapitre 10 et le verset 21, c'est Jésus qui parle et qui dit « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Je te loue, et il dit « Je te loue Père ». Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces hommes, ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et puis le deuxième texte, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 à 7. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Sur les versets qui sont diffusés au tableau, ils ont parfois été écourtés. J'ai retenu juste dans les versets les points clés que je voulais soulever avec vous ce matin, c'est-à-dire les parties qui parlent de la joie. Donc, la joie où Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit, et puis la joie que donne l'Esprit dans l'affliction. Quand on regarde le premier texte, c'est ce moment où Jésus a envoyé les 70 disciples en mission et ils sont partis annoncer la bonne nouvelle. Ils reviennent vers Jésus un peu pour faire un compte-rendu de ce qui s'est passé. Et ils annoncent des choses grandioses. Ils ont pu faire des exploits dans le nom de Jésus. Et avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Et c'est vrai pour nous aussi, si nous croyons, si nous nous confions dans le Seigneur. Les exploits, c'est ce que Dieu a prévu. Alors ils ont proclamer la vérité, il y a eu des guérisons, il y a eu des démons qui ont été chassés, l'œuvre de Dieu s'est accomplie et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et puis ils étaient tout réjouis, ils étaient dans une grande joie. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas simplement du fait que les démons sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et ce qui fait notre joie ce matin, c'est que nous sommes enfants de Dieu, c'est que notre nom est écrit dans les cieux. Si nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons l'assurance, si nous devons quitter cette terre, que nous irons dans la gloire de Dieu. Ça, c'est ça qui doit nous réjouir, c'est ce que Jésus souligne. Et puis tout à coup, alors qu'il est en train de leur parler de la joie, Jésus lui-même se met à tressaillir de joie, et la Bible précise, par le Saint-Esprit. Donc, c'est une vive émotion que Jésus ressent. Le terme grec signifie, pour tressaillir, signifie exulter, se réjouir fortement, être extrêmement dans la joie. Il y a une notion d'allégresse et puis de démonstration de joie. Donc, ce verset est traduit, j'ai remarqué dans la version Semeur, « Jésus était transporté de joie par le Saint-Esprit ». Ou une autre version dit « Il exulta sous l'action de l'Esprit ». C'est intéressant de noter ce verset, parce que dans la plupart des cas, lorsqu'il est parlé des émotions du Seigneur, vous le remarquerez dans les évangiles, c'est souvent la tristesse qui se dégage, la souffrance de Jésus, son angoisse par exemple, on peut penser à Gethsémané, sa tristesse quand il a pleuré par exemple sur Jérusalem. Il y a plusieurs passages qui montrent ainsi que le Seigneur a connu des sentiments de souffrance, de tristesse, et très peu qui laissent entrevoir la joie. Et pourtant néanmoins, cela ne veut pas dire que Jésus n'était pas dans la joie, nous en avons quand même quelques-uns, et que c'était une joie ici qui venait du Saint-Esprit. Alors Jésus n'était pas austère. C'est vrai que si on s'en tient à ce qu'on résumait dans les évangiles les disciples, et si on fait une comparaison, il y a plus de versets qui parlent de la souffrance et de la tristesse de Jésus que de la joie. Mais néanmoins, cela ne veut pas dire que Jésus servait dans la tristesse. Il était joyeux, il faisait le ministère, si on peut dire, avec la joie du Saint-Esprit. Et c'est un ordre de Dieu d'ailleurs, parce que Dieu nous demande de le servir avec joie. Psaume 100, verset 2, « Servez l'Éternel avec joie ». Et il nous commande aussi de venir avec allégresse dans sa présence. Si bien que quand nous nous rassemblons et quand nous voulons louer le Seigneur, c'est avec ces dispositions de cœur qu'il nous faut venir. C'est un ordre de Dieu. Un autre passage, la parole nous dit, dans Néhémie 8, verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force ». Alors on a besoin de cette joie, non seulement pour le servir, mais pour avancer, pour trouver les forces nécessaires que le Seigneur va nous communiquer. Je remarque aussi que quand il est dit que Jésus a tressailli de joie, donc les disciples l'ont vu, mais cela l'a poussé à faire quelque chose. Est-ce que vous l'avez remarqué dans notre verset ? Qu'est-ce qui se passe après que Jésus s'est mis à tressaillir de joie ? Il s'est mis à louer l'Éternel. Et cela aussi va nous enseigner quelque chose à nous ce matin, car la joie qui vient du Saint-Esprit va nous pousser à la louange, à l'adoration, à reconnaître que Jésus, que notre Dieu est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, comme nous l'avons fait ce matin. La louange, c'est vraiment l'expression de notre amour pour Dieu. Maintenant, je remarque une chose. Est-ce que cette louange était programmée ? Pas du tout. Elle est intervenue au moment où Jésus a tressailli de joie. Ce qui signifie que nous pouvons aussi avoir des moments de louange, entre guillemets, non programmés. Évidemment, il y a des moments de louange, si on peut dire, programmés lorsque nous avons nos réunions, comme les cultes. C'est programmé dans notre planning. Mais on peut avoir aussi des moments de louange non programmés, c'est-à-dire quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour exprimer notre louange à Dieu. Alors, il a pris un temps, là, tout simplement, puis il n'avait pas honte, il était en public, il était devant les disciples, il s'est mis à louer Dieu tout d'un coup, comme cela, conduit par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est quand on laisse l'action de l'Esprit en nous nous diriger, nous conduire. Et puis c'est bon, si le Saint-Esprit nous y pousse à arrêter, à prendre un petit temps, à se mettre de côté, et puis de le louer, de l'adorer. On ne l'avait peut-être pas planifié sur notre agenda, mais c'est bon de le prendre ce temps. Dans le deuxième texte, 1 Thessaloniciens 1:6, on voit que Paul ici va s'adresser à cette église de Thessalonique et va leur rappeler la manière dont l'Évangile est parvenu jusqu'à eux. Alors, on sait par le livre des Actes des Apôtres comment ça s'est passé, l'arrivée de l'Évangile à Thessalonique. Ça n'a pas été si facile. Il y a eu, d'abord, Paul a été bien accueilli parce qu'il était juif, et donc il allait prêcher dans les synagogues. Et au début, donc, il lui laissait la liberté d'annoncer l'Évangile. Mais quand Paul commençait à parler de Jésus, fils de Dieu, etc., qui donnait des précisions sur le Messie, eh bien, pour certains juifs, ça n'a pas du tout accroché, et ils lui ont demandé d'arrêter. Par contre, un certain nombre de juifs, des grecs, dit la parole de Dieu, des craignants Dieu, des femmes de qualité, des femmes importantes dans la ville, ont été touchés par le message de la grâce, de l'amour de Jésus, et se sont joints à Paul, et ça a formé la première église. Mais quand même, la majorité des gens de la synagogue n'ont pas voulu suivre l'évangile. Donc, ces juifs qui étaient jaloux contre Paul et son enseignement, qui pensaient qu'il était une secte et qu'il annonçait des erreurs, ils ont commencé à faire une sorte de tintamarre dans la ville. Ils sont allés voir les tribunaux, ils ont voulu faire passer ceux qui suivaient Paul en justice. Et puis, il y a eu toutes sortes d'opposition. La Bible dit même que Paul, parce qu'on craignait pour sa vie, il a dû s'échapper de nuit dans une autre ville. Mais rassurez-vous, quand Paul s'est échappé de nuit dans une autre ville, c'était encore pour annoncer l'Évangile et la parole de Dieu. Amen. Parce que même quand nous devons partir de quelque part pour aller ailleurs, mais c'est toujours pour semer, c'est toujours pour annoncer la bonne nouvelle. En tout cas, Paul ne s'est pas laissé décourager en disant, puisqu'on m'a chassé comme ça de cette ville de Thessalonique, c'est fini, j'annoncerai plus l'Évangile. Non, il est resté dans la vision du message que Dieu a mis sur son cœur, du service que Dieu a mis sur son cœur, il est allé en autre endroit témoigner. Mais il signale quand même qu'à Thessalonique, il dit, c'est au milieu, dans notre verset, c'est au milieu de beaucoup d'afflictions. Donc ça s'est passé dans l'opposition. Le terme original signifie pour affliction, oppression, tribulation, détresse, difficulté en tout genre. Et lorsque on veut semer la parole de Dieu, qu'on veut semer l'évangile, nous devons savoir qu'il y aura une opposition, qu'il y aura de l'affliction, qu'il y aura des combats. Pourquoi ? Parce que le diable fait tout pour empêcher l'annonce de l'évangile, et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu, et nous voulons annoncer la vérité au monde. Mais néanmoins, l'ennemi fera tout pour nous en dissuader. Je citais jeudi après-midi quelques versets qui montrent par exemple les ruses qu'il utilise. Il est question des ruses du diable. Il est dit à un moment donné que le diable a empêché Paul d'aller dans un certain endroit. Et ailleurs, c'est dit qu'il va tendre des pièges, etc. Il y a plusieurs endroits. Donc ça nous montre que lui, il agit et il ne veut pas que, à Toulouse, l'évangile progresse. Il ne veut pas que l'œuvre de Dieu en France avance. Et bien sûr, il n'est pas seul. Il a une horde de démons qui sont à sa botte et qu'il manipule et puis qu'il fait agir en tout lieu. Alors, cela, frères et sœurs, ne doit pas nous décourager. L'ennemi est certainement puissant, mais avec le Seigneur, nous sommes plus puissants que l'adversaire. Et Paul en était convaincu. Vous voyez, il n'est pas là en train de se dire, oulala, j'ai été chassé, qu'est-ce qui va m'arriver dans la prochaine ville? J'ai dû fuir ici à Thessalonique. Qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la tête? Il était confiant dans le Seigneur et il allait faire le ministère que Dieu lui a confié. Alors, au contraire, frères et sœurs, nous le savons par avance, nous allons rencontrer des difficultés, Jésus nous l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais je remarque que dans le même verset, il est dit, on a annoncé la parole, il y a eu beaucoup d'afflictions, et il dit, avec la joie du Saint-Esprit. Et ces deux mots qui sont humainement incompatibles, ils sont collés par le Saint-Esprit dans le même verset. L'affliction d'un côté et la joie du Saint-Esprit de l'autre côté. Et je crois qu'ici, dans ce verset, il y a une sorte de point clé concernant une vie victorieuse. Parce qu'on peut très bien être dans l'affliction, frères et sœurs, connaître de l'opposition, passer par les pires épreuves, mais néanmoins, comme Paul le dit, nous étions quand même dans la joie du Saint-Esprit. C'est un mystère, ça, mais c'est spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui a mis la joie dans son cœur, parce que humainement, Paul, il aurait dû être triste, il aurait dû être découragé, et il aurait dû renoncer. Mais le Saint-Esprit est là. Et Paul peut même dire, vous avez été mes imitateurs, dans le même verset, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur. Pourquoi il dit, vous avez été mes imitateurs? Parce que les gens ont vu comment Paul réagissait dans l'épreuve. Si on regarde le texte des Actes, avant Thessalonique, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il était à Philippe, dans la ville précédente, dans la ville de Philippe, eh bien, il est dit que Paul, il y avait une telle opposition dans cette ville qu'ils se sont retrouvés avec Silas en prison. Et c'est là où il a fallu qu'ils soient des modèles, malgré tout, malgré les épreuves, la prison. C'était pas comme les prisons d'aujourd'hui, c'était vraiment difficile, encore pire, avec des chaînes aux pieds dans la saleté, etc. Eh bien, la Bible nous dit qu'alors qu'ils auraient dû être découragés, au contraire, en plein milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter les louanges du Seigneur. C'est pour ça qu'il peut dire, vous avez été mes imitateurs, parce qu'eux-mêmes ont mis en pratique, en quelque sorte, ce qu'ils enseignent. Ils sont en train de dire, oui, oui, on a connu l'affliction à Thessalonique, mais on avait la joie du Saint-Esprit. Mais vous savez, partout où on est passé, on a connu de l'opposition. Mais par la joie du Saint-Esprit, on peut toujours trouver la louange et l'adoration qui revient à notre Dieu. Et comme ils l'ont vécu, voyez, ben, ça permet de bien transmettre l'enseignement aux chrétiens. C'est pour ça qu'il se permet de dire, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Alors les Thessaloniciens, ensuite, eux-mêmes sont devenus des modèles. La Bible nous parle de leur foi, la Bible nous parle maintenant de leur joie du Saint-Esprit. Ça, c'était le sixième point. Il communique. Septième point concernant le Saint-Esprit, ses actions. Il communique la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Notez qu'il n'est pas dit là où est la liberté, là est l'Esprit du Seigneur. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parce que c'est sur la notion de liberté qu'il y a parfois une ambiguïté. Je rappelle le contexte de ce 2 Corinthiens 3, parce qu'il faudrait lire tous les versets autour pour comprendre. 2 Corinthiens 3, 17, le contexte, c'est que Paul enseigne sur le ministère de l'Esprit, en contraste avec le ministère de la loi. Il dit, la loi, c'était important, la loi n'est pas dénigrée dans la parole de Dieu. Il dit même, Paul, que le ministère de la loi a été glorieux, et c'était important qu'il y ait la loi. Mais il dit, le ministère de l'Esprit est encore plus glorieux, et c'est vers cela que nous devons tendre, donc marcher dans l'Esprit. Et puis il fait allusion à Moïse dans les versets précédents, où il est dit que Moïse avait un voile sur le visage. Vous savez que lorsque Moïse revenait de la présence de Dieu, notamment lorsqu'il est redescendu de la montagne, et puis chaque fois qu'il allait dans la tente d'assignation, son visage brillait tellement de la gloire de Dieu qu'il s'était mis un voile sur le visage pour atténuer cela. Et Paul en parle ici, il dit voilà, Moïse avait bien un voile sur le visage, et il dit ce voile, c'est l'image d'une certaine compréhension de la loi, la manière, de comprendre la loi des Juifs. Et les Juifs ont toujours un voile, évidemment c'est invisible, ils ont un voile invisible, mais spirituel, qui leur fait comprendre la Torah d'une certaine manière. Et ce voile, il dit, lorsque l'on vient en Christ, ce voile est ôté, parce que ce voile, il représente l'esclavage de la loi. Et il ne peut être ôté que si on vient en Christ, si on accepte Jésus dans notre vie. Et il dit, quand le voile est ôté, c'est l'image de la vie chrétienne. Alors, on a le visage découvert et on reflète la gloire du Seigneur. C'est comme ça que nous devons vivre, frères et sœurs, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ça veut dire quoi dans la pensée de Paul? Ça veut dire ceci, c'est que nous pouvons comprendre la parole de Dieu par l'Esprit. De même que ce voile qui était là faisait comprendre la parole de Dieu par la loi, le voile est ôté, nous comprenons la parole de Dieu par l'Esprit. Alors qu'est-ce que la liberté? La liberté, ce n'est pas celle de faire n'importe quoi, ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, c'est pas ça. Parce que ce verset a malheureusement été utilisé à tort par certains pour justifier des comportements excentriques, bizarres, pour montrer c'est la liberté. Et là où il y a la liberté, il y a l'esprit. C'est pas ça que le texte dit. Puisqu'il n'est pas question de cette liberté-là, dans le contexte, il est question de la liberté du joug de la loi. Alors effectivement, pour nous, c'est tellement éloigné tous ces débats. Mais à l'époque de Paul, il y avait une grande tendance dans l'Église à vouloir revenir à la loi de l'Ancienne Alliance. Tous ceux qui étaient d'origine juive, qui s'étaient convertis à Christ, il y avait cette tendance à vouloir revenir à la circoncision, à vouloir revenir au sabbat, à vouloir revenir au rite, etc. Et Paul, lui, il a dû lutter, combattre incessamment pour que la liberté de l'Évangile gagne sur le légalisme. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout cela est très lointain, mais néanmoins, il peut exister dans les croyants aussi une tendance légaliste, qu'on appelle légaliste, c'est-à-dire des gens qui s'imposent toutes sortes de lois, de rigueurs, etc., croyant ainsi plaire à Dieu, mais ce n'est pas, si vous voulez, comme cela que nous devons vivre, c'est une vie de liberté. Donc, c'était un sujet tellement important pour l'époque que Paul a rédigé une épître entière qui s'appelle l'épître aux Galates, qui traite du sujet d'être délivré du poids du joug de la loi. Alors, la grande liberté que nous avons ce matin, c'est quelque chose que nous devons vivre, que nous devons exprimer, et la vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux tendances à éviter. La première, c'est l'esclavage de la loi, ou le légalisme, et la deuxième tendance à éviter, c'est la liberté de faire n'importe quoi. La liberté au point de ne plus avoir de notion de quoi que ce soit, et ça, certains peuvent tomber dans ce piège, mais voyez, l'équilibre scripturaire, c'est entre ces deux, car la Bible précise ailleurs, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la loi, et il dit, nous sommes sous la loi de Christ, c'est une loi d'amour, et c'est ça qui fait que, libre, on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'on est sous la loi de Christ, sous une loi d'amour. Donc, l'Esprit de Dieu communique la liberté. Huitième point, l'Esprit de Dieu nous aide. Romains chapitre 8 et au verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et puis Acte chapitre 9, verset 31, l'Église était en paix, dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dans le premier verset qu'on a cité, on peut remarquer que cette expression « l'Esprit nous aide », alors c'est un petit mot en français, et le verbe « aider », mais qui, dont le verbe grec signifie, le verbe grec en fait, on peut le traduire « l'Esprit prend part à notre faiblesse avec nous et à notre place ». C'est ça que ça signifie, « avec nous, à notre place, il prend part à nos difficultés ». Donc on a ici un verbe qui peut évoquer l'image, si quelqu'un a un fardeau, ben, il y a une autre personne qui vient prendre le fardeau avec lui à sa place et puis qui veut l'aider. Le Saint-Esprit est ainsi notre aide. Maintenant, frères et sœurs, lui veut nous aider. Est-ce que nous, nous acceptons d'être aidés aussi dans nos difficultés? Parce qu'il faut de l'humilité. Il faut accepter que quelqu'un d'autre vienne nous aider. Ce n'est pas toujours évident à cause de l'orgueil, à cause de ce sentiment qu'on a des fois au fond de nous-mêmes qu'on va s'en sortir par nos forces, par nous-mêmes, par nos capacités, etc. Alors nous l'avons vu précédemment, le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il est notre aide, mais il ne nous force pas, il ne nous aide pas de force, si vous voulez. Il faut que nous acceptions aussi son intervention, et c'est là où ça va se jouer, de notre part. Pour accepter son aide, il y a une condition, c'est que nous devons d'abord réaliser notre faiblesse. Remarquez le verset Romains 8, 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Réaliser notre faiblesse, faiblesse est un mot qui signifie fragilité, faiblesse. Darby l'a traduit notre infirmité. Quelque part, on est infirme. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. Et ce terme se réfère à notre fragilité, notre ignorance et notre mauvaise compréhension des choses de Dieu. On est faible. Ce n'est pas que nous ne savons pas prier, ce n'est pas le sujet du verset. La Bible ne dit pas que vous ne savez pas comment prier, mais la Bible dit que nous ne savons pas quels sont les bons sujets de prière. Et l'Esprit nous aide à diriger nos prières vers les bons sujets, c'est-à-dire les sujets qui sont selon la volonté de Dieu. Et ces sujets qui sont selon la volonté de Dieu, la Bible nous demande de les prier. Or, nous ne savons pas comment faire. C'est écrit, par exemple, dans 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, Jean nous dit de demander, de prier, oui, mais selon la volonté de Dieu. Or, comment prier selon la volonté de Dieu? Voilà la difficulté, parce que nous avons toujours tendance à prier par rapport à nos besoins, par rapport à ce que nous désirons, ce que nous pensons, ce que nous souhaitons, etc. Eh bien, comment faire pour prier selon la volonté de Dieu? Si c'est impossible naturellement, ça devient possible par l'Esprit. Car ce verset nous dit que l'Esprit va nous aider. Pardon, l'Esprit va nous aider, il va diriger nos pensées, il va orienter nos prières sur les bons sujets, d'une manière, on va dire, spirituelle. Et c'est intéressant de noter la distinction qu'on peut faire dans la parole entre l'intercession de l'Esprit, que nous voyons ici dans ce verset, et l'intercession de Jésus, car il y a deux intercessions. L'intercession de l'Esprit est en nous. L'Esprit est en nous et il intercède par nous, c'est ce que dit le texte. Mais Jésus, la Bible dit qu'il est au ciel et qu'il intercède pour nous. Et vous avez deux formes d'intercession. L'intercession de Jésus d'un côté, l'intercession de l'Esprit en nous et par nous. Et c'est ainsi que nous pouvons être efficaces dans la prière. Quand les deux se combinent et que c'est dans la volonté de Dieu, vous voyez que ça fait tout de suite une efficacité extraordinaire. Alors que signifie cette expression que vous avez sous les yeux, qui sont des soupirs inexprimables? Qu'est-ce que c'est? La version Jérusalem traduit des gémissements ineffables. On peut arriver à un tel degré de communion avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit va librement déverser ses émotions, ses sentiments en nous. Et ce n'est pas proprement parler des paroles, mais c'est une forme d'expression, on pourrait dire, spirituelle, certains commentateurs ont pensé qu'il s'agissait du parler en langue, peut-être. Le Saint-Esprit, en tout cas, crée en nous des aspirations qu'on ne peut pas exprimer avec un langage humain, mais qui sont ainsi l'œuvre de l'Esprit. Alors, pour résumer ce verset, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour avoir une intercession efficace selon la volonté de Dieu. Il vient à notre aide. Et le texte des Actes, que vous avez aussi sous les yeux, nous révèle par ailleurs l'importance de l'action de l'Esprit là dans la croissance de l'Église. Car le terme assistance, il est dit dans ce verset, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, etc. Et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce terme assistance signifie aussi exhortation, consolation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église a beaucoup, dispose de beaucoup plus de moyens techniques qu'à l'époque de l'apôtre Paul. Mais néanmoins, nous avons toujours besoin de l'assistance de l'Esprit. Ce n'est pas parce qu'on est en 2008 qu'on peut se dire, voilà, on a 2000 ans d'histoire de l'Église derrière nous, on peut se dispenser maintenant de l'assistance de l'Esprit. Ce n'est pas ça, car nous en aurons toujours besoin. Pourquoi on a besoin de l'assistance de l'Esprit ? Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui pouvez convertir une personne. On peut prier pour sa conversion. On peut supplier Dieu de toucher son cœur. Mais qui est-ce qui va convaincre une personne de péché ? C'est le Saint-Esprit. Donc nous, nous devons croire dans l'action de l'Esprit et lui, il va agir, il va amener une âme à la repentance, il va rendre des cœurs ouverts pour que le message soit reçu. Ça, c'est l'action de l'Esprit. Alors nous devons prier, frères et sœurs, pour que l'Esprit puisse agir librement au milieu de nous, qu'il n'y ait pas d'entrave, pas d'opposition, et que les personnes qui viennent dans ce lieu, elles puissent vraiment se convertir. Ce ne sera pas une œuvre humaine, mais ce sera une œuvre spirituelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui les amènera à reconnaître qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Neuvième point, après, il nous aide, c'est « il nous conduit ». Romains chapitre 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et Galates chapitre 5, verset 18. « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Alors maintenant qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus, ça signifie que notre vie ne nous appartient plus à nous-mêmes et que nous devons chercher quels sont ses projets pour nous, quels sont ses plans, et laisser l'Esprit nous conduire dans la voie que Dieu veut pour notre existence. Alors pour nous aider, l'Esprit va nous conduire. Maintenant, est-ce que nous sommes convaincus ce matin que Dieu veut le meilleur pour nous dans notre vie ? Parce que si on n'en est pas convaincu, on ne va pas se laisser conduire par l'Esprit. Parce qu'on aura peur que s'il nous emmène là où on ne veut pas aller, et puis que ça se passe mal, voilà, il y aura des craintes. Alors par contre, si déjà nous sommes convaincus que Dieu veut le meilleur pour nous, je vais accepter volontiers de me laisser conduire par l'Esprit. Et c'est important de chercher à savoir où Dieu veut nous conduire. De toute façon, l'Esprit agit en harmonie avec Dieu pour nous diriger. C'est l'Esprit qui conduit. Je prends l'exemple dans un navire. C'est le commandant qui donne les directives et l'équipage se soumet et va dans le cap qui a été commandé. Et bien, le commandant de notre vie, si notre vie on la compare à un grand bateau, le commandant de notre vie, ce n'est pas nous, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit diriger, qui doit donner le cap. Et c'est ça, ça veut dire ça, conduire. Parce que le commandant, il est meilleur, il est mieux formé, il est meilleur que le reste de l'équipage. Il connaît les dangers de la mer, il sait où il y a aussi les récifs, les pièges et tout ça. Et donc, c'est lui qu'il faut obéir. C'est au Saint-Esprit que nous devons obéir si nous voulons éviter les pièges de l'existence, les difficultés de la route, les pièges du diable, comme on a parlé. Soumettons-nous au Saint-Esprit, laissons-nous diriger par lui. La seule difficulté, c'est d'accepter que quelqu'un d'autre conduise notre vie. J'ai remarqué, il y a des personnes, par exemple, quand elles ne conduisent pas leur propre voiture, elles ne sont pas très à l'aise. Elles n'aiment pas être à la place de... Elles ont toujours peur que la personne conduise mal, qu'il y ait un accident. est-ce qu'on accepte volontiers de se laisser conduire ? En tout cas, pour l'esprit, on doit lui faire confiance. Par contre, je me rappelle lorsque j'étais enfant, que mon père conduisait la voiture, moi j'étais derrière, il était devant, et je voyais ses grosses mains sur le volant, et bien moi j'étais en sécurité, je me sentais dans la paix, et j'avais confiance, et des fois même je m'endormais, je savais qu'on allait arriver à bon port. Il nous faut avoir confiance dans notre Père Céleste, frères et sœurs. C'est lui qui doit diriger notre vie. Est-ce que nous lui faisons confiance ? Est-ce que nous acceptons de lui laisser la direction de notre existence ? Alors, il pourra nous conduire. La Bible cite l'exemple de Siméon. Siméon, c'était un homme juste, parce que tout d'un coup, Siméon, on ne sait pas quelle activité il faisait, mais il a été poussé par l'Esprit à venir dans le temple. Ce jour-là, à cette heure-là, il ne savait pas pourquoi il devait y aller, mais il était poussé par l'Esprit à y aller. Et la Bible dit justement que Jésus était présenté dans le temple ce jour-là, à cette heure-là, et que Siméon a pu tenir le Christ dans ses bras et il a éclaté en louange. Mais si Siméon avait refusé de se laisser conduire à ce moment-là, s'il n'avait pas obéi à l'injonction de l'Esprit qui le disait « va au temple, va au temple ». Et puis lui, s'il disait « mais moi j'ai mon activité, je ne peux pas la laisser ». Il aurait pu dire « mais j'ai pas le temps, j'irai demain ». Et s'il était allé demain, finalement, il n'y aurait pas eu le rendez-vous tant attendu. Donc il a fallu aussi qu'il se laisse diriger. C'est pourquoi l'Esprit va nous pousser, mais aussi à nous d'obéir à cet ordre divin, ben, d'aller dans telle direction. Et Siméon a eu ce privilège donc de voir Jésus. Alors, dixième action de l'Esprit, l'Esprit crée l'unité. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et on peut souligner l'unité de l'esprit. Le Saint-Esprit, donc, alors, il y a deux choses dans ce verset qu'on peut retenir, c'est que le Saint-Esprit crée l'unité, mais nous devons, nous, la conserver. C'est deux choses différentes. Qui est-ce qui crée l'unité ? Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais qui est-ce qui doit conserver l'unité ? Là, c'est nous. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est à nous. On va voir la différence. Comment est-ce que le Saint-Esprit crée l'unité ? Par son action spirituelle dans nos cœurs, on en a déjà parlé, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il nous fait réaliser que nous sommes fils de Dieu, que nous avons le même Père. Conséquence logique, nous sommes frères et sœurs puisque nous avons le même Père spirituel. Donc, vous voyez, l'action de l'Esprit nous fait réaliser déjà que nous sommes la famille de Dieu. C'est important pour l'unité car le corps de Christ ne doit pas être divisé, il doit être uni. Un membre ne peut pas dire « moi je vais aller là, l'autre par là », etc. Non. Il y a l'unité du corps de Christ. Maintenant, unité ne signifie pas uniformité. Et on doit accepter les différences d'opinion au milieu de nous. J'ai relevé un verset de Paul qui dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Telle a telle opinion, l'autre a telle opinion, eh bien chacun est libre. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien sûr. On ne parle pas de la doctrine, on ne parle pas des choses essentielles de l'évangile, de la conversion, du baptême, etc. Mais des opinions diverses qui existent sur des tas de sujets dont nous n'avons pas forcément les mêmes. Donc, l'unité n'est pas uniformité. Parce que pour certains, l'unité, ça consiste à imposer aux autres la manière dont ils pensent. Ça, c'est pas l'unité. C'est pas créer l'unité, ça, c'est de l'intolérance. Et c'est contraire à la parole, puisque Paul dit, ne discutez pas les opinions, tel pense manger de ceci, tel pense manger de cela, vous voyez. Il laisse ses consignes. Donc, attention, le deuxième aspect de ce passage... Après, on a dit c'est le Saint-Esprit qui crée l'unité, d'accord, mais attention parce que nous, frères et sœurs, nous avons une influence sur l'unité. C'est-à-dire nous pouvons l'influencer positivement et la favoriser ou nous pouvons l'influencer négativement et détériorer l'unité. Ça, c'est notre part. Alors, pour la conserver ou pour la favoriser, la Bible nous montre que ça ne va pas se faire tout seul, mais ça va nécessiter un effort de chacun. Le verset le dit, premièrement de se supporter les uns les autres avec amour. Il faut un petit peu d'effort pour supporter. Supporter parce que Paul sait très bien qu'il y a des chrétiens qui sont plus difficiles à supporter que d'autres. Et déjà à l'époque, il y avait des caractères qui étaient très tendus. On a une petite remarque là concernant Évodie et Saint-Tiche. Vous connaissez ce passage des Philippiens ? Évodie et Saint-Tiche, deux sœurs de l'église de Philippe, qui avaient des différends entre elles. Pourtant, c'était deux croyantes. Et Paul leur dit d'avoir les mêmes sentiments dans le Seigneur, de se réconcilier, de se demander pardon, de supporter les différences. Donc, on peut être chrétien, avoir des différends, mais on peut aussi se supporter les uns les autres et accepter les différences et passer ces caps. Deuxième chose que nous dit le texte, nous devons nous efforcer de conserver l'unité. C'est marqué comme ça. Et donc, dans le mot « efforcer », vous avez le mot « effort ». On peut le traduire aussi par « s'appliquer à conserver l'unité », en prendre soin. C'est un petit peu comme une plante fragile, l'unité. Si on n'en prend pas soin, on ne s'en occupe pas, eh bien, elle va périr. Mais si on en prend soin, elle va se développer. C'est ainsi que nous devons veiller sur l'unité. Il y a eu quelques tensions comme ça entre Paul et Barnabas. Vous connaissez ces passages dans les Écritures. À un moment donné, ils n'étaient pas d'accord. Il y a eu deux chemins différents pris, mais ils ont su préserver quand même l'unité. Et puis après, on voit que Paul reconnaît en Jean-Marc qui était la cause un petit peu de la dispute, qu'il est utile pour le ministère. Il y a eu aussi entre Paul et Pierre quelques accrochages comme ça. Mais l'unité a toujours été préservée. Donc, le Saint-Esprit, alors pour conclure ce verset, le Saint-Esprit a un rôle d'unificateur. On peut dire qu'il est l'initiateur des liens fraternels, mais nous, en quelque sorte, nous sommes les conservateurs. Nous sommes ceux qui devons les entretenir et agir pour que l'unité reste. Dernier point, le 11e, le Saint-Esprit établit des ministères. Actes chapitre 20 et le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Dans le contexte, Paul ici s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse et il doit leur laisser la responsabilité de cette église et leur donne quelques consignes. Première consigne qui est mentionnée, prenez garde à vous-même, c'est-à-dire veillez sur votre propre vie spirituelle parce qu'aucun ministère, même les plus remarquables, ne peuvent se passer de prier, de lire la parole de Dieu, même s'ils ont eu des grands résultats, s'ils négligent de veiller sur eux-mêmes, ils sont menacés, ils sont en danger et ils risquent de tomber. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber, nous devons veiller sur nos voies, veiller sur nous-mêmes. Et ensuite, deuxième recommandation, prenez garde au troupeau. L'Église est comparée à un troupeau, les brebis c'est fragile, il y a des loups ravisseurs, il y a toutes sortes d'attaques qui peuvent arriver. Donc, il y a un seul grand berger, c'est Jésus, et les pasteurs, les anciens, sont en quelque sorte les adjoints du grand berger. Et ils doivent veiller sur le troupeau et rendre des comptes au grand berger, à Jésus. Nous aurons des comptes à rendre. Ça, c'est aussi mentionné dans l'Écriture. Donc, Paul leur rappelle le choix de Dieu. Il leur dit, c'est le Saint-Esprit qui vous a établi évêque. C'est bien Dieu qui les a choisis. Ce ne sont pas eux qui ont postulé, en quelque sorte, à être anciens. Ils n'ont pas, si vous voulez, ce n'est pas un choix humain. Même si par ailleurs on peut aspirer à un ministère, on peut le désirer, néanmoins c'est quand même Dieu qui appelle et ensuite Dieu qui établit. Et ça on le voit dans ce texte, le Saint-Esprit vous a établi. Alors, évêque signifie surveillant. C'est traduit comme ça dans la version Darby, l'Esprit vous a établi surveillant. En fait, ça désigne un responsable spirituel, très généralement synonyme de l'autre mot ancien, et si Dieu choisit qui il veut, il va choisir une personne, il va l'établir ancien, eh bien il va aussi lui accorder les dons nécessaires pour qu'il exerce cette fonction. Car l'ancien a une grande mission. Quelle est la mission de l'ancien dans ce texte? C'est de faire paître l'Église de Dieu, c'est-à-dire de la nourrir. Et pour accomplir la mission que Dieu lui confie, il a besoin d'être équipé par le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit pour justement exercer ce ministère. Donc, voyez, c'est bien l'Esprit qui établit les ministères. En conclusion, l'action de l'Esprit que nous avons vu est très diversifiée dans le Nouveau Testament, et on peut dire qu'aucune œuvre spirituelle durable ne peut être accomplie sans l'action, sans l'aide précieuse de l'Esprit de Dieu. On a besoin de son action au milieu de nous. On va prier quelques instants le Seigneur pour terminer. On a vu tous les thèmes concernant le Saint-Esprit, donc je vous encourage, si vous avez pris des notes, à revoir cela ou à écouter les différents messages, les réécouter, pour que nous soyons bien conscients de l'importance de l'action de l'Esprit, de la nécessité de l'action de l'Esprit au milieu de nous, et qu'on soit de ceux qui la recherchent, qui s'attendent à être utilisés par l'Esprit, qui se laissent conduire par l'Esprit. On a vraiment besoin d'approfondir ces choses et de les appliquer nous-mêmes à notre existence. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous montre encore ces grandes vérités concernant ton œuvre, ta volonté, tes plans. Et nous te prions pour que notre Église soit vivifiée, renouvelée par le Saint-Esprit, et qu'au milieu de nous, Seigneur, tu suscites aussi des serviteurs, des servantes, que tu appelles, que tu qualifies. Seigneur, conduis-nous par ton Esprit de victoire en victoire. Tu désires pour nous le meilleur et nous voulons accepter tes plans, tes projets, et ne pas chercher à nous entêter dans une volonté qui ne serait pas la tienne. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance, à vivre dans cette intimité de ta présence où nous pouvons à tes pieds recevoir ta pensée, recevoir consolation, exhortation, recevoir tout ce que tu as prévu. Merci d'encourager mon frère et ma sœur aussi qui passent par des afflictions, des difficultés, mais nous croyons que tu peux communiquer ta joie, Seigneur, communiquer ta paix et restaurer les cœurs qui ont besoin de toi, Seigneur. Merci de faire grâce et de bénir encore toute cette journée. Amen.